Backlash, vous connaissez ce mot? Backlash, c'est un mot anglais qui veut dire contre-coup, mais c'est aussi le titre d'un livre culte de l'américaine Suzanne Faludi qui a remporté le prix Pulitzer au début des années 90. Un livre où elle explore, au fil d'une enquête linguistique, politique, culturelle, comment les droits des femmes qui ont été acquis sont sans cesse remis, soumis à une riposte, à une contre-offensive, à une réaction dans tous les sens du terme. C'est intéressant de s'y replonger dans ce livre Backlash quand, en janvier 2019, à Paris, on peut entendre ou lire sur des pancartes, banderoles ou autres affiches « IVG, dire la vérité, c'est dissuader ». Vivre est un droit, pas un choix, ou encore Macron, Macron, touche pas aux embryons. Quand en janvier 2019, on peut entendre IVG, ça suffit, protéger le faible, ça c'est fort, la vie n'offre aucune garantie, l'avortement ne laisse aucune chance. Quand en janvier 2019, il y a 10 jours, précisément, on lisait « Touche pas à ma vie, touche pas à mes enfants » ou encore « Nous défendons le droit de naître, c'est ton corps, pas ton choix, j'ai été embryon, je suis médecin, je ne tue pas, l'avortement est un poids, pas un choix, et puis garder son bébé, c'est la liberté, 220 000 bébés tués chaque année, en marche pour la vie, 20 janvier 2019, backlash. » Vous connaissez ce mot ? Backlash.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Pour quel droit se bat mon invité d'aujourd'hui? Elle est musicienne et les traditions dont elle se réclame ont quelque chose à voir avec le combat, même si c'est un aspect d'elle qu'on connaît moins. Sous l'eau, le premier extrait de son 8e album Bleu vient de paraître et le clip qu'elle réalise va être dévoilé pendant cette émission. Elle vient nous parler de musique, mais pas seulement. Bonjour Kerenan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin.
Merci, merci de m'avoir.
D'abord, parce que je sais que cette actualité vous a fait réagir, de quel œil est-ce que vous l'avez regardé, cette marche pour la vie qui s'est tenue il y a 10 jours, le 20 janvier 2019?
Je l'ai trouvé ridicule, je trouvais que je comprends pas cette soudaine envie de revenir sur des sujets qu'on a déjà réglés. Je ne vois pas l'intérêt, et puis voilà, il y a plein de... En fait, ce sujet, on peut en parler pendant des heures, mais en gros, moi, ce qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle il est venu un peu là dans notre société.
Oui, comment vous l'expliquez?
Moi, je pense que ça a rapport aussi avec justement ces mouvements pro-life aux États-Unis. On est influencé en France. Il y a et puis voilà, on est un peu sur cette vague de
retour à un ordre moral.
Voilà, un ordre moral. On a envie de. C'est les mêmes personnes. En fait, c'est des gens qui ne pensent pas au choix, c'est-à-dire que c'est une sorte le pro-life, la manifestation pro-life, elle ressemble beaucoup aussi à la manifestation qui était contre le mariage pour tous, en fait. C'est en fait empêcher les gens d'avoir un choix. Et donc là, il y a en plus le fait de faire de la conscience, de donner la mauvaise conscience aux gens et puis aux femmes. Et voilà, en fait, ça, je pense que ça regarde les femmes. C'est un sujet qui regarde les femmes. Voilà, moi, j'aimais bien ce hashtag pas d'ovaire, pas d'opinion. et puis voilà, c'est pas pour être cru. Bien sûr que c'est quand on a envie, quand un enfant est un projet et qu'on le fait à deux et qu'on le fait pas à deux. Je sais pas, c'est un sujet qui est déjà réglé. On va pas revenir dessus. Je pense que c'était très étonnant et même très, hors sujet, cette manifestation du 19 janvier. Enfin,
du 20 janvier. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression de vous battre, vous, aujourd'hui, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que personne aussi, tout simplement, Kerenan?
Je sais pas à quel... En fait, me battre, c'est juste donner mon avis. Et puis, parce que me battre, quand j'en ai l'occasion, j'essaie d'être présente pour certaines causes. Mais ça, en l'occurrence, c'est pas quelque chose où j'irai crier dans les rues, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui l'ont déjà fait. C'est un sujet qui est déjà réglé. Et j'aimerais que ça soit clair. J'aimerais que plus personne ait besoin d'aller dans les rues se battre pour ce sujet-là.
Mais en écoutant vos paroles, en remontant dans votre discographie, je me suis dit peut-être quand même qu'il y avait quelque part un combat contre l'oubli chez vous, l'oubli de l'histoire. Et je me pose la question, à quelle mesure est-ce qu'on vit pour vous dans une époque qui est propice à l'oubli, justement?
C'est une très belle question. Je pense que chez moi, tout est question de mémoire. Parce qu'en fait, même le départ, la disparition, le fait de quitter quelqu'un, le fait de perdre quelqu'un, c'est justement la manière dont on s'en souvient qu'il existe ou qu'ils existent ou que quelque chose existe en nous. Et en fait, ça m'intéresse énormément dans l'écriture en général. En l'occurrence, dans l'album Bleu, il y a pas mal de références aux vagues de Virginia Woolf, justement parce que la manière dont elle crée ses caractères et la manière dont elle raconte leur histoire et la manière dont elle a envie qu'ils restent. Et c'est, et on a l'impression qu'elle choisit ses narrateurs à travers des personnages qu'elle a envie de rendre éternels. Et j'aime bien cet exercice dans l'écriture. Moi, quand je prends une histoire, quand je l'emprunte pour la rendre mienne, pour la raconter en chanson, c'est aussi pour rendre éternelle une émotion qui a été vécue par quelqu'un qui m'est important.
Et ça s'inscrit, Karen Hahn, c'est là où c'est intéressant, dans un contexte de perte de mémoire, justement. Et je me pose la question, parce que c'est dans ce contexte que vous travaillez, que vous créez, en quoi ce contexte politique, culturel, ça influe ou ça influe pas du tout sur votre travail?
Je pense que tout influe, parce que mon sujet principal, c'est l'amour, c'est les relations amoureuses, fraternelles, d'amis, d'amants, de professeurs, d'élèves, en fait, d'un point de vue plus spirituel. Mais je pense que toute question pour moi que j'aime traiter, c'est celle de l'amour. Mais parfois entre les lignes, il y a des sujets plus graves, il y a des sujets de mémoire, il y a des sujets. J'ai, dans mon ADN, j'ai tellement de choses que j'ai besoin de porter, ne serait-ce que via les origines de mes parents, que justement dans des titres comme Odessa, Odyssée, ou dans des titres comme Ton île prison qui sont sur cet album, ça m'est déjà arrivé de le faire dans le passé. J'arrive entre les lignes à raconter aussi des choses qui ne sont pas que dans une relation et qui ne concerne pas que l'amour, mais en fait c'est déguisé en histoire d'amour, parce que j'ai besoin d'une ligne qui me laisse raconter ça, un peu comme Cassavetes, ou un peu comme ou un peu comme justement Sylvia Plath ou Virginia Woolf. Ça revenait toujours à des histoires d'amour.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire de la musique aujourd'hui? À quoi ça sert? Quel sens est-ce que ça a?
En fait, c'est à la fois un privilège, mais aussi, moi, autant que auditeur, la musique, les chansons, en général, le songwriting, le storytelling m'a appris à vivre. Moi, j'ai appris à vivre en écoutant Dylan parler d'amour, en écoutant Cohen parler d'amour, en écoutant Carole King. J'ai appris aussi à comprendre des sujets plus graves à travers Billie Holiday et Chet Baker. C'est-à-dire que Strange Fruit chez Billie Holiday, c'est
immense,
pas une histoire d'amour.
Chanson sur le lynchage.
Voilà. Mais par contre, avec la musique et avec les mots qui sont utilisés, les rimes, la progression harmonique, les fréquences, on rentre dedans et ça rentre. Et je pense qu'on peut, à travers des mots, rendre un moment grave ou tendre, et j'aime bien l'équilibre entre le lumineux et la noirceur qu'on peut avoir dans certaines situations, et j'en ai besoin, et j'ai besoin que chaque élément dans la chanson, les mots, les notes, la progression harmonique, les arrangements, les textures, le côté organique, soit présent pour justement créer un tout, et me permettre moi de délivrer une émotion comme on l'a fait pour moi quand j'étais adolescente, ou quand je grandissais, ou même encore aujourd'hui, quand j'ai besoin d'entendre et de trouver une zone de confort dans une musique.
Alors ce nouvel album, le 8e, il paraît le 15 mars, et on peut dire que son titre annonce la couleur bleu au féminin. Quelle couleur est-ce que c'est le bleu pour vous?
Déjà, bleu, ce qui est fantastique, c'est que dans la langue française, il existe au féminin.
Ouais.
Bleu au féminin, c'est-à-dire que le rouge, non, le jaune, non, mais le bleu, oui.
Ah, il y a verte aussi.
Oui, verte, c'est vrai, j'aurais pu être verte. Mais le bleu, c'est justement cette sensation amniotique qu'on a avec l'eau. En fait, la relation à l'eau, la relation blues, la relation bleue, le bleu, c'est mythique, ce soit une couleur froide, c'est une couleur très sensuelle à mon goût, c'est une couleur qu'on reconnaît sur la peau, c'est une couleur qu'on n'a pas besoin de voir, on a besoin de la sentir. C'est pour ça que tout est en noir et blanc autour de mon album.
Et d'un point de vue sonore et musical, Karen Hahn, qu'est-ce que c'est le bleu?
Le bleu, justement, c'est des fréquences très très remplies, c'est une basse très grave, c'est une voix, mon instrument personnel dedans, il est très naturel, il est tel que il est bleu, il est nouveau, il est parfois débutant, parce que j'ai besoin qu'il soit naturel, mais après entouré de plein de fréquences. Le bleu, il a tellement en fait, il y a tellement de sensations dans le mot bleu qu'on a envie de toutes les essayer.
Vous parlez souvent de matière et de son organique. Qu'est-ce que ça veut dire au regard du bleu, justement?
Justement, ça veut dire que quand on est dans une pièce et quand on joue du piano, qu'il y a des fréquences qui ressortent à travers ce piano, dans cette pièce-là, dans ce bois-là, et qu'on a envie de traduire tout ça pour un enregistrement, c'est tout un processus, et on a envie que tel qu'il soit dans l'enregistrement, il soit comme dans la pièce. C'est
un son
ça que
plus
j'appelle.
Vivant, en fait.
Bah, c'est juste le son qu'on entend. C'est-à-dire que quand on entend un son, après, quand on l'enregistre, parfois, on a besoin de le modifier pour qu'il soit touchant, ou pour qu'il soit réel, ou pour qu'il soit pur. Alors que j'aime bien le travail dans le son, où l'instrument et l'enregistrement n'est pas du tout modifié, et on arrive à retrouver cette sensation pure et organique qu'on a dans la pièce.
C'est intéressant de vous entendre parler de musique de façon aussi technique. Karen Hahn, c'est rare, et je vous en remercie. En écoutant ce nouveau disque, que vous avez écrit, composé, réalisé, on se rend compte que la musique, c'est d'abord effectivement un travail très précis, un travail d'orfèvre sur le son. Quand est-ce que vous avez compris ça?
En fait, moi, c'était, je pense que je le dis toujours, mais c'était vraiment en découvrant Tapestry de Carole King, j'ai compris à quel point les instruments.
Ah là, vous touchez la corde sensible, quand même.
j'ai compris, j'étais très très jeune, mais j'ai compris qu'on peut séparer les éléments, qu'il y a un piano, qu'il y a une basse, qu'il y a une batterie, qu'il y a une voix. En fait, je pense que l'enregistrement de cet album m'a permis de comprendre les textures, les couches qu'on peut avoir, au-delà de l'écriture, au-delà des mots, des sons, des notes, des syllabes. Et je pense que la langue française, justement, permet ça très très bien, parce que c'est une langue triangulaire et on n'a pas le confort de la rondeur qu'on peut tout tricher.
Ça veut dire quoi, une langue triangulaire?
Une langue triangulaire, les syllabes sont plutôt courtes, on n'a pas envie de rendre les syllabes et les mots très longs et très sportifs. On a envie qu'ils soient purs, authentiques, naturels, on a envie de les raconter, on a envie d'être raconteur en français. Et justement, quand on est raconteur, c'est les fréquences pures et authentiques de nos voix qui ressortent. C'est notre instrument qui est tel qu'il est. Et en fait, on a envie de raconter avec ces sons-là et la langue française nous le permet.
Et on va revenir sur la langue française qui est l'une des spécificités de cet album puisque vous revenez en français, Karen Anne. Mais d'abord, ça demande, j'imagine, quand même des compétences techniques pour travailler le son ainsi. Comment est-ce que vous les avez acquises, ces compétences-là?
J'ai essayé de pas du tout différencier l'outil, c'est-à-dire entre la langue française et anglo-saxonne. Pour moi, c'est juste deux textures différentes. C'est comme quelqu'un qui travaille avec le bronze, oui, ou quelqu'un qui travaille avec le marbre. C'est deux matières différentes. Et donc, j'essaye de les sentir, ressentir comme ça, parce que sinon je m'en sors pas, parce que j'ai tellement eu l'occasion d'évoluer, de raconter mes histoires en anglais, parce que j'ai continué à écrire en français, mais pas pour moi, pas mes chapitres. Et en fait, j'ai dévoilé des choses de moi en anglais, mais je l'ai pas fait en français, donc je voulais pas arriver d'un coup, devoir faire tout ce chemin en français pour arriver à ce point-là. Il fallait que je saute plein d'étapes. Et donc, la langue, je l'ai utilisée un peu comme une matière.
Oui.
Et quand on utilise la langue comme une matière, c'est une vraie complicité avec les mots, avec les notes. On peut se mettre au piano, à la guitare, et les mots sont juste un autre support.
Alors, par exemple, dans une chanson comme Sous l'eau qu'on va entendre tout à l'heure, qui est le premier extrait de cet album, quelle forme est-ce que vous lui donnez précisément, si c'est une matière, le son et la langue?
Pour moi, c'est une forme frénétique. Oui, parce qu'en fait, dans l'écriture, il y a quelque chose de quand on est très concentré, quand on est très focus, il y a quelque chose qui au départ pourrait paraître comme une mantra, on se répète, et après le focus devient presque physiologique, on peut avoir mal. Il y a plein de gens qui appellent ça un mal-être chez l'écrivain, mais je pense que c'est plutôt la concentration qui crée cet état physiologique où on a presque mal, et c'est un état frénétique, on devient un peu accro à ça, je pense qu'on a besoin d'y revenir. C'est les moments d'écriture qu'on adore, et dans Sous l'eau j'ai ressenti ça aussi, parce que il y a ce parallèle entre la mort et la naissance. On ne sait pas si je parle de naissance ou si je parle d'une mort ou d'un départ ou d'une disparition, mais je pense que c'est aussi, ayant vécu la mort de quelqu'un dans mes bras, ayant vécu la naissance de ma fille, je pense qu'il y a quelque chose d'identique dans les deux états, frénétique et euphorique, même si c'est pas du tout le même état après, même si le contre-coup n'est pas le même, mais dans l'état même. Et donc je pense que justement, pour moi, Sous l'eau, il y a quelque chose qui est lié au mantra et à la frénésie.
Celle qui est frénétique et euphorique dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Karen, elle est aussi opaque et cryptique, parfois illisible, mais sonore, ça on peut lui concéder, c'est la culture et son actualité étrange. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Il fait chaud et frais, mardi 29 janvier.
Mon best-seller et mon planning, c'est mon starter after shaving. Je suis son parking, son one-man show.
Globish, pas Globe, dans une tribune relayée par le journal Le Monde, un collectif d'écrivains et d'intellectuels dont Tahar Benjelloun, Lydie Salver ou Marine Diaye s'insurgent contre la présence d'anglicisme dans la terminologie du Salon Livre Paris. Dans leur viseur, les termes young adult, photo booth ou bookroom, dénonçant ce Globish abrutissant, vecteur d'impérialisme linguistique, les signataires demandent au Salon de remplacer l'anglais par le français afin de protéger les jeunes de l'uniformité linguistique mondiale. Cool.
Black Panther!
Yes.
Oscar, l'affaire est dans le SAG. Un mois avant la grand-messe du 7e art américain, les SAG Awards font un peu office de répétition officielle. Ainsi, ce week-end, le syndicat des acteurs a remis ses trophées et révélé les tendances de la saison. Résultat, Black Panther repart avec le prix du meilleur ensemble d'acteurs. Rami Malek est récompensé pour sa prestation dans Bohemian Rhapsody et Glenn Close pour son rôle dans The Wife. Tout ça, ça se précise.
Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille, je danse le Mia.
Il nous propose un voyage dans le temps via Planète Marseille. Le morceau culte du groupe IAM, daté de 1993, va être adapté au cinéma. C'est Michael Youn et Matt Alexander qui vont porter le projet sur grand écran. Le pitch, un jeune Marseillais des années 90 se retrouve téléporté à notre époque et découvre la scène rap d'aujourd'hui, notamment Jules. Alors qu'on se rassure, le tout sera chapeauté par Akhenaton en personne. Ah oui, Mino ! On dit MMM ce soir à 20h. Mathieu Chédid va venir enflammer le studio 104 de la Maison de la Radio, retransmis en direct sur l'antenne et présenté par l'ami Manzoni. Le concert déroulera les morceaux de L'être infini, le nouvel album du guitar héros français révélé vendredi. Costumes à rayures, coupe pétard et swing d'enfer, ça s'annonce légendaire. Merci qui ? Merci Inter. Et la musicienne Kerenan, invitée de Boomerang ce matin pour son album Bleu, qui sortira en mars. La semaine dernière, à ce micro, recevait Charles-Élie Couture, qui nous disait que le mot album était, à son grand regret, dépassé, qu'il avait été supplanté par les playlists. Vous en pensez quoi, vous ?
Ah oui, parce que nous, en fait, on écoutait les albums comme on regarde un film. On arrivait, on mettait la face A.
C'est vrai, hein ?
On écoutait l'album comme ça, assis sur un fauteuil. Et après, on allait chercher un verre d'eau quand on, entre les deux faces. On mettait la face B, on écoutait. Et puis oui, et en fait, moi, j'ai fait toujours les track listings de mes albums. Je les fais toujours avec dans ma tête le face A, face B, parce que j'ai besoin de me réconforter avec cette idée que le vinyle sera éternel.
Et de construire une histoire aussi, il y a un sens dans l'enchaînement en fait de ces chansons.
On a envie qu'il y en ait une sans forcément que ça soit dans le départ un album concept, mais on a envie que ça soit qui est en fait c'est très sonore quand on construit un track listing, mais finalement il y a comme c'est un sujet quand on fait un album, c'est un peu on fait le tour d'un sujet. Forcément, on trouve un lien entre les
Alors, ce nouveau disque, vous le disiez, Kerenan, il est entièrement en français, ce qui n'était pas arrivé depuis la disparition il y a 17 ans. Qu'est-ce qui a rendu le recours au français possible et même évident pour vous?
En fait, le fait d'être entièrement, de vivre entièrement en France depuis plus de 3 ans et demi, parce que ma fille est scolarisée en France, et donc je vis dans un environnement français. J'avais toujours un pied en France, et j'étais toujours résidente française, mais j'ai vécu beaucoup à New York et ailleurs, et je partais pour des projets, je vivais beaucoup dans un environnement anglo-saxon.
Mais vos parents étaient très francophiles.
Oui, francophiles, ils parlaient anglais entre eux, donc c'est ma langue. C'est, le français, c'est pas ma langue naturelle. J'ai pas parlé un mot de français avant l'âge de 11 ans. Mais par contre, j'ai été bercée par plein de voix françaises. Salvador, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, j'ai toujours connu ces voix-là. Ils me parlaient, c'était des instruments que je connaissais de près.
Mais pour quelle raison vos parents sont venus s'installer en France?
En fait, je pense que c'était toujours dans leur projet parce qu'ils se sont rencontrés en France. Ça a juste mis du temps. Voilà, et en fait j'avais 11 ans quand ils se sont installés en France, et moi c'était un coup de foudre de tout, c'était pour moi le lieu où j'allais passer ma vie, c'était évident.
Et puis le lieu de la langue de Gainsbourg, vous dites souvent que votre rapport au français ne serait pas ce qu'il est sans Gainsbourg.
Oui, parce que j'ai connu sa voix qui racontait. Avant d'entendre des gens parler dans la vie de tous les jours. Pour moi, avant même de savoir lire et écrire, je connaissais cette voix qui racontait des choses et qui me disait des choses. Et sans parler français, je croyais deviner et connaître de quoi il parlait. Tout comme Caetano Veloso, qui je parle pas portugais, et toujours pas d'ailleurs, sauf que Gainsbourg, ça a changé parce que le français est devenu une langue que je manie et que j'aime.
C'est ça le travail du poète pour vous, c'est de sublimer une langue en fait, d'en faire presque quelque chose de supérieur.
Je sais pas si c'est quelque chose de supérieur, mais c'est important d'en faire quelque chose de personnel parce qu'on n'est pas si différents l'un de l'autre. Il y aura toujours quelqu'un qui se reconnaît dedans. Et j'aime bien ça, j'aime beaucoup le fait de parfois me retrouver avec une phrase que j'ai traduit de l'anglais ou que j'ai traduit et qui est en français, qui n'a pas forcément de sens, mais après, en la finissant avec une autre fin, ou on arrive à lui donner un sens en français et elle devienne un peu personnelle. Et je sais que je suis pas la seule à le ressentir comme ça.
Il y a dans votre voix, Kerenan, à mesure que je vous parle, cette mélancolie quand même qui est centrale, je trouve, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le titre de votre album Bleu. Qu'est-ce que c'est pour vous? La mélancolie.
C'est une zone de confort, c'est obligé. Oui, oui, parce qu'en fait, je pense que on arrive. En fait, c'est constamment un peu. Je suis quelqu'un de plus qui aime vraiment la vie, mais n'empêche que j'arrive à reconnaître aussi la part du regret, la part de la nostalgie, la part du même par moment la partie plus dark, parce que je pense qu'elle fait partie. Mais ça m'empêche pas de regarder, de voir, de me retenir à une lumière.
Mais d'où ça vient, à votre avis, cette mélancolie? Comment elle s'est construite?
Ah, forcément, en fait, mes origines déjà, tout le côté qui vient des pays de l'Est, sans cesse, les non-dits, les tabous.
Les exils.
Les exils, le regard, la tristesse dans les yeux de nos parents. Voilà, c'est un grand héritage. Je pense que la mélancolie, on la porte dans notre ADN.
Dimanche, à l'occasion de la journée mondiale de l'Holocauste, Karina, vous avez partagé un lien vers le projet de la documentariste Sophie Naoum sur les survivants de la Shoah. On parlait tout à l'heure de la nécessité de ne pas oublier le passé.
C'est très important et j'ai, en fait, c'est des épisodes de 9 minutes que je conseille vraiment. C'est une autre manière de raconter ça, c'est la mémoire, il en reste peu malheureusement des personnes qui peuvent témoigner et elle va les chercher et elle arrive avec énormément de tendresse à les écouter et à nous transmettre une partie de l'histoire. Et voilà, on n'a plus beaucoup de... Moi, j'ai connu des gens qui pouvaient me le raconter. Ma fille, elle n'en connaîtra pas. Et justement, je suis contente que Sophie Naoum a pu continuer justement à essayer de documenter et puis de raconter ça avec les derniers survivants pour que ma fille puisse savoir.
Cette histoire, cette tragédie, comment est-ce qu'on vous l'a raconté, vous? Comment vos parents vous l'ont raconté?
Ah, elle fait partie de mon sang, en fait. Même ma mère, qui était pas du tout, qui n'avait rien à voir, elle vivait en Hollande, elle faisait partie d'une famille très très catholique, qui vivait dans une ferme. En fait, eux, ils ont caché une famille juive dans leur cave. Et le jour où ça a été trouvé, une partie de sa famille et puis a été massacrée, et toute cette famille massacrée devant eux. Donc, je pense que c'est pas qu'une question de la communauté juive. Je pense que c'est une question de tout. C'est quelque chose qu'il faut en parler, il faut le raconter. Vous savez, en partageant ce lien qui parle des derniers de cette série d'épisodes, il y a eu pas mal de réponses de gens qui prennent ces histoires pour des fables. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est important qu'on en parle et qu'on se souvienne, parce que l'histoire, elle se répète. Et c'est hors de question que ça se répète. Il faut pas laisser passer.
C'est important de raconter. C'est intéressant parce qu'à bien vous écouter, j'ai l'impression que raconter, pour le coup, c'est central chez vous.
C'est important, enfin, raconter, témoigner. Alors, dans les chansons, je le fais à travers des histoires d'amour, mais c'est vrai que dans Odessa, Odyssée, il y a aussi ma part de mémoire. Mais c'est vrai que on n'y peut rien, on ne peut pas s'en échapper. Moi, c'est dans mon ADN, forcément, mais je pense que c'est dans l'ADN de plein de personnes, puisque la France, elle en a souffert énormément.
Je propose qu'on ferme les yeux et que vous nous racontiez une histoire, alors. Vous êtes sur France Inter avec Karen Anne, vous écoutez Boomerang et retenez votre souffle parce que vous êtes sous l'eau. C'est le titre de la chanson.
C'est beau. Thank you. me perd sa demi-voix. Je vis quand je te vois. Pourtant, le sang qui coule dans la splendeur vient-il vraiment d'ailleurs? Il me tue, cet amour. Il me tue, cet amour.
En fait, on est quelque part entre la Joconde et la petite sirène ce matin, à ceci près qu'elle n'a pas les cheveux mouillés, qu'elle ne sent pas le poisson pané, un ovale de visage à faire pâlir un peintre de la Renaissance, un regard noisette de tic-tac, une dégaine de douce rêveuse, elle est apaisante comme une mer partant calme, une tisane ou un fauteuil massant de chez Nature et Découverte, avec ses boucles d'oreilles créoles ce matin, la musicienne Kerenan, invitée de Boomerang. On vient d'écouter Sous l'eau, ce titre assez hypnotique. Sur quoi repose l'atmosphère de ce morceau, justement, la construction sonore?
En fait, pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment l'élément d'eau. C'est une chanson amniotique.
Oui.
Il y a, en fait, justement, cette ambiguïté entre la naissance et le départ. Et en fait, justement, dans le clip, je voulais illustrer ça. Je me suis inspirée du dernier jour de la vie de Virginia Woolf, le 28 mars 1941, elle a quitté sa maison, elle a mis des cailloux dans ses poches, elle s'est laissée emporter par la rivière de House.
Et cette nappe sonore du tout début du morceau, presque imperceptible, oui, derrière le piano, c'est quoi?
En fait, c'est du piano, mais qui est pris, c'est une prise sonore qui est faite dans l'autre partie du piano à l'intérieur et qui ensuite est mis à l'envers. Et donc ça donne cette sensation un peu de jeu.
Ce qui est très beau, c'est la façon dont les instruments apparaissent et disparaissent, en fait. À quoi ça tient?
Celui-là, en fait, il fallait que je fasse une sensation d'eau. Et pour avoir une sensation d'eau, il fallait une eau légèrement trouble, mais pas trop non plus.
Ouais.
Donc c'est pour ça. Et en fait, ce titre, le piano, au départ, c'est vraiment le premier piano que j'ai enregistré chez moi. En général, j'aime bien aller dans un studio et utiliser un grand piano et prendre la pièce et avoir un piano à queue. Chez moi, j'ai un piano droit, il est parfois un peu désaccordé, mais... Et en fait, j'ai enregistré la première prise de ce morceau chez moi avec la voix et le piano, en me disant que j'allais enregistrer en mieux en studio, mais je me suis dit que ça me permettrait d'après imaginer un peu les arrangements. Et finalement, j'ai gardé cette première prise. Parfois, ça arrive comme ça, qu'on a un moment d'enregistrement. Et...
C'est rare, Kerenan, de vous voir jouer au piano sur scène. Je crois que je ne vous ai jamais vu.
Oui, parce qu'en fait, c'est un instrument pour moi qui est super pour composer, mais je pense qu'avec cet album, je n'aurais pas le choix, parce que j'ai tellement tout imaginé au piano qu'il y a des choses qui ne sonnent absolument pas à la guitare, donc il faudrait que je considère reprendre le piano sur scène.
Et pourtant, c'est une guitare que vous avez emmenée avec vous. Quelle guitare?
Oui. Tiens. Alors, c'est la guitare de ma fille, de Nico. Elle est toute petite, mais j'aime bien comment elle sonne.
Et par quel hasard est-ce que vous avez un jour commencé à en jouer de la guitare, vous?
Moi, je voulais absolument jouer de la guitare. J'en ai demandé une pour mon anniversaire de 9 ans. Alors, j'ai eu une guitare.
Vous avez appris toute seule?
Au début, après j'ai pris des cours, mais au début, mais c'était vraiment jouer You've Got a Friend de Carole King, jouer des chansons de Jean-Guy Jobin.
Toujours cet album Tapestry qui revient. Ouais.
Toujours, mais en fait c'est fou comment il m'a accompagné cet album.
Et les premières mélodies, elles sont venues à la guitare?
Oui, les premières chansons que j'ai écrites dans mon adolescence, c'était avec la guitare.
Et elles arrivent comment, justement, Kerenan, quand vous laissez courir vos doigts sur les cordes par hasard, ou alors dans votre tête?
Je pense qu'on s'arrête sur une espèce de... En fait, c'est pas un accord, c'est plusieurs qui nous plaît, une espèce de tournerie d'accords qui nous plaisent et qui nous inspire. C'est aussi le son de la pièce, ça peut être le son de la guitare, ça peut être la voix de ce jour-là. Parfois, quand on a la voix un peu grave, on va être attiré par une certaine progression d'accords. Quand on a la voix ouverte et un peu plus aiguë, elle sera attirée par d'autres. Mais avec le piano, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est différent, la composition à la guitare et au piano. Et parfois, quand on a l'impression de se répéter, on a besoin de passer de l'un à l'autre.
C'est une chanson du grand Michel Legrand qui vient de nous quitter, que vous avez choisi de reprendre ce matin en direct à la guitare. C'est un cadeau, hein, une chanson composée par lui, mais écrite par Agnès Varda pour le film Cléo de 5 à 7 en 1962. Vous auriez pu en choisir plein d'autres, des chansons. Vous avez choisi celle-là, Karen Anne.
J'adore l'aspect, la qualité tragique de cette chanson et à la fois tellement poétique. Ça revient à tout ce qu'on a dit, les gens qui aiment écrire et qui peuvent trouver de la poésie même dans les pires tragédies. Et je trouve que cette chanson, elle a la qualité. Elle a justement une grande progression d'accord à la Michel Legrand où c'est d'une élégance et d'une mélancolie et d'une nostalgie aussi. Il y a une force et puis des notes et des sons à ne plus en finir. Et puis les mots tellement fortes de femmes qui aiment d'Agnès Varda et les deux ensemble, ça me touche beaucoup.
Et ça s'appelle Sans toi.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer. Mes plages se dévident sans toi. Sans toi, belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide. Sans toi, sans toi, rongé par le cafard. Morte au cercueil de verre, je me couvre de rides sans toi, sans toi. Et si tu viens trop tard, on m'aura mise en terre seule.
Ça, c'est un cadeau. Merci infiniment, Karen Anne, pour cet hommage à Michel Legrand, sans toi, qui n'aurait pu sonner plus juste. Merci aussi d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Sous l'eau, le nouvel extrait de Bleu vient de paraître et que le clip que vous avez réalisé vient d'être dévoilé pendant cette émission. Bleu sortira le 15 mars avec à la clé, on l'espère, une belle tournée parce qu'on y sera tout de suite. Les médias avec Sonia De Villers et son instant M. Vous m'entendez,
mais
Sonia?
Mais qu'est-ce que c'était joli.
Ah bah
mais
ouais.
Qu'est-ce que c'était beau.
Ah, c'était la grande classe.
Déjà
hein.
Depuis ce matin, on l'entendait dans le couloir répéter.
Ah.
C'est vrai, hein?
Ah bah oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'était très bon. Merci beaucoup. À demain.
C'est moi qui vous remercie. À demain, Sonia.